À Rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de Mozart, très jeune. Il est mort en 1791. Mozart, ce compositeur génial, absolument génial, autrichien, qui, d'une certaine façon, on peut dire qu'il a été sauvé par sa foi, à tout le moins si on considère l'assez abondante production religieuse de très grande qualité, même au dernier moment de sa vie. Mozart est né le 27 janvier 1756. Il portait le nom de Wolfgang Théophile. Théophile, c'est-à-dire Amadeus, ça veut dire qui aime Dieu, hein, ou aimé de Dieu. On dit souvent ici Amédée, hein? Il y a des Québécois qui s'appellent Amédée, c'est le même nom, Amédéus. C'est une traduction en fait de Théophile, qu'il aimait moins. Il est né à Salzbourg, il est le fils de Léopold Mozart, un musicien, compositeur, et d'Anne-Marie Pertl. Et à 6 ans déjà, en 1762, Mozart écrit son premier menuet, puis un allegro en si bémol. Il est accompagné par son père et par sa sœur Marianne dans des voyages qu'il commence déjà, des voyages musicaux évidemment. Et il joue devant l'empereur François d'Autriche et l'impératrice Marie-Thérèse. L'année suivante, au cours d'un second voyage, il s'arrête dans des villes très nombreuses d'Allemagne, c'est inutile de toutes vous les nommer, puis il se rend ensuite à Paris, où il séjourne durant 5 mois, il est très bien reçu. Et quand il a même pas 10 ans encore, en 1764-1765, il est à Londres, où il joue en présence cette fois-ci du roi George III. Il y avait justement une grande émission sur George III à la télévision hier. On en parle de plus en plus de ce roi étrange. Roi d'Angleterre. En 1767, c'est au moment, ça, de l'installation des Anglais ici, dans notre pays. Et en 1767, après un voyage en Hollande, puis toutes sortes d'ennuis qui sont dus à la maladie, parce que les deux jeunes sont malades, lui et sa sœur. Bon, on les retrouve à nouveau à Salzbourg, où Mozart compose l'oratorio. Écoutez bien le titre, étant donné que nous sommes à Radio Ville-Marie, ce sont des émissions religieuses. Le titre de cet oratorio, c'est « L'obligation du premier commandement ». Premier commandement, un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. L'année suivante, en 1768, il écrit à 12 ans une messe. Oui, et son premier opéra bouffe, la Finta Semplice. Je vous fais grâce de toutes sortes de détails. On peut les accumuler comme ça pendant des heures. Je passe tout de suite à 1770. Il a 14 ans. C'est au mois de mars. Il fait la connaissance à Bologne du père Jean-Baptiste Martini, ou Giovanni Battista Martini, qui lui donne des leçons de contrepoint, puis il le fait nommer membre de l'Académie philharmonique de Bologne. C'est assez important dans sa vie. Ce prêtre a eu une assez forte importance dans sa vie. Puis il a surgi finalement le premier opéra Sirius, on peut dire, le Mithridate, roi du pont, qui est présenté avec succès à Milan. Bon. Je vous fais grâce de toutes sortes de détails. Allons tout de suite à l'âge de 21 ans, au mois de septembre, en 1777, il quitte Salzbourg, accompagné cette fois par sa mère. Il est écœuré par la grossièreté du nouveau prince archevêque, comte de Colloredo. Vous savez, ces archevêques, c'était beaucoup plus des princes, puis des comtes, puis des ci et des ça, que des véritables archevêques. Ils étaient nommés là par les gouvernements, et c'était pas le pape qui les nommait, c'était terrible, vraiment terrible. Alors donc, il est écœuré par la grossièreté de ce nouveau prince-archevêque, lequel a succédé à l'archevêque Sigismond von Stratenbach, son précédent protecteur. Après de brefs séjours à Munich, à Augsbourg et à Mannheim, il se rend à Paris. Là, il va composer la symphonie en ré, dite la parisienne. Le 3 juillet 1778, c'est la mort de sa mère. Ça l'affecte beaucoup. Il n'est pas très vieux, 22 ans. Et puis, il revient à Salzbourg. L'année suivante, il rompt définitivement avec l'archevêque de Salzbourg, puis s'établit à Vienne. À 26 ans, le 4 août 1782, il épouse Constance Weber. C'est la sœur d'Aloysia Weber, dont il était tombé amoureux quelques années auparavant, à Mannheim. C'est donc à Constance qu'il dédie le drame lyrique « L'enlèvement au sérail », dans lequel l'héroïne s'appelle précisément Constance. La même année, jusqu'en 1785, donc de 1782 à 85, il se consacre tout particulièrement à la composition de musique instrumentale. Alors là, Mozart nous laisse la fameuse symphonie Hafner, et puis la symphonie Linz, six quatuors dédiés à Franz Joseph Haydn, avec lequel il s'est lié d'une profonde amitié. En 1786, le 1er mai, il a 30 ans, c'est la première des Noces de Figaro. Qui ne connaît pas les Noces de Figaro, hein, dont la représentation à Vienne et à Prague remporte un véritable triomphe. Puis l'année suivante, 1787, le 28 mai, c'est la mort de son père. Il est déjà orphelin. C'est plutôt jeune. Hein? Et en fait, il a 31 ans, quoi. Et à la suite du succès obtenu par les Noces de Figaro, là, c'est le directeur du théâtre de Prague, Pascal Bondini, qui charge Mozart de composer un nouvel opéra. C'est ainsi que naît le fameux opéra Don Juan, représenté pour la première fois à Prague le 29 octobre. C'est une grande date dans sa vie. Et revenu à Vienne, bien Mozart est nommé Kammermusikus par l'empereur Joseph II. Cette nomination n'améliore cependant pas sa situation économique. Il est pauvre. Il y a toujours une situation bien précaire. L'année suivante, en 1788, il écrit ses trois dernières symphonies, des grandes symphonies, dont la Jupiter, hein, qu'on connaît bien. En 89, c'est l'année de la Révolution française, le 8 avril, il quitte à 33 ans Vienne pour suivre le prince Karl Lichnowsky, son élève, dans une tournée à travers l'Allemagne. Puis il reçoit cependant pas du roi de Prusse les offres qu'il espérait. Puis d'ailleurs, la Prusse, c'est pas l'Autriche. Vous savez, ces gens-là qui parlent la même langue s'entendent pas tellement, les Prussiens puis les Autrichiens. Et il doit rentrer à Vienne, finalement, où, sur la demande de Joseph II, là, l'empereur, il écrit un nouvel opéra, c'est le fameux « Così fan tutte ». Ainsi font-elles toutes les femmes. « Così fan tutte ». Et en 1790, c'est la mort de Joseph II, et Léopold II lui succède, mais Léopold II porte pas à la musique le même intérêt que son frère. Et finalement, on arrive à la dernière année de sa vie, 1791. Au mois de juillet, bien, il commence à composer le Requiem. Mais ça va être interrompu par sa mort. Ça va être achevé par son élève, Süssmayr. Et le 6 septembre, on représente à Prague la Clémence de Titus. À la fin de septembre, c'est la représentation à Vienne de la Flûte enchantée. Cet opéra fantastique, c'est un triomphe. Le 15 novembre, c'est la dernière composition, c'est la cantate « Éloge de l'amitié ». Il va mourir le 5 décembre 1791 à Vienne. Il faut bien spécifier que la musique sacrée tient une place considérable dans l'œuvre de Mozart. Et lui-même regrettait à la fin de ses jours de pas s'y être adonné davantage. Son don, il y avait un don miraculeux d'inventeur. C'est absolument phénoménal que si jeune soit surgi de cette âme, je dirais, plutôt que de ce cerveau. J'aimerais mieux dire de cette âme, tellement c'est inspiré. Soit sorti toutes ces notes, c'est absolument fabuleux. Là, c'est un don miraculeux qui... De bien qu'il ne réaliserait en plénitude vraiment son génie que dans l'expression de ce grand drame chrétien qui est celui que nous avons entrepris de célébrer il y a quelques jours en commençant l'année liturgique, c'est-à-dire celui de la faute, du péché de l'homme. De l'homme, de la femme, de tous les êtres humains, nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons besoin de secours, nous avons besoin de cette rédemption, de cette aide, de cette libération que nous apporte la vie même du Christ et l'Esprit Saint. Et elle nous est apportée sur la croix par cette grande preuve d'amour. Puis, nous avons besoin aussi de jeter un regard joyeux sur l'éternité. Et il sentait bien ça, il fallait qu'il célèbre ça, mais il en a été distrait par la vie, hein, lui qui était capable de tout faire, n'a presque jamais fait ce qu'il a voulu, ce Mozart. C'est le trait dominant, en somme, le trait persistant de sa destinée. Il acceptait toutes les contraintes du dehors, mais presque aucune de lui-même. Il demeurait, on dirait, si on veut faire très une émission religieuse, il demeurait dans la main de la Providence, je dirais, oui, jusqu'à un certain point. Il faut aimer Mozart, évidemment, pour dire des choses comme ça. Moi, je l'aime beaucoup. Et Mozart pouvait se plaindre de devoir suivre tel chemin plutôt que tel autre, mais il s'insurgeait pas. Et n'oublions pas que sur la vingtaine de messes, qui avaient toutes sortes d'hymnes, de motets, de graduels, de litanies, de sonates d'église, forment tout son bagage religieux, bien, 15 messes ont été écrites sur les 20, là, entre 12 et 20 ans. Mais 21 ans, plutôt. Puis que depuis la messe en le Köchel 317, composé pour le couronnement de la Vierge de Maria Pleine, et bien une autre dans le même ton qui l'a suivi d'un an en mars 1780, bien le Mozart sacré n'a pas repris la plume, mais, ou en 1782 un peu, mais pour qu'il la reprenne encore, là, il nous faudra attendre la dernière année de sa vie, avec l'Ave Verum, puis la messe de Requiem, cette fameuse messe de Requiem. Vous en entendrez un extrait dans une demi-heure. Le composé, l'année de sa mort, 1791, l'a pas terminé. Et pendant 10 ans, on peut dire, là, il a chômé vis-à-vis la religion, ça veut dire. Tandis que le musicien profane, là, nous a dispensé les plus merveilleuses créations, hein. Il faut pas mépriser ça. Les noces, Don Juan, Così fan tutte, les concertos, ah, c'est si beau, c'est lui qui est un peu l'inventeur du concerto, quoi. Les quintettes, les trios, les symphonies. Ah, et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'artiste est laïcisé puis que son art a renoncé à Dieu. Non, il faut noter ce point. L'année même de la grande messe, Wolfgang Mozart achève la première en date de ses œuvres franc-maçonniques, la cantate en mi bémol Der Seele des Weltals. Et celle-ci, du reste, peu nombreuses, si j'ai affaire franc-maçonne, chichelonne jusqu'à la flûte, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Dans le service total du sacré, et qu'il ait jamais perdu la foi, non, vraiment, moi, je ne l'admets pas. Et nous allons justement entendre une messe de Mozart, une très belle messe, sous la direction de Peter Newman. C'est une messe solennelle, Köchel 337.
Thank you.
C'était donc le Kyrie de la messe solennelle de Mozart. Ça peut sembler profane aux oreilles de certains, mais je vous avoue que... Bon, je vais vous faire une confidence à des gens qui n'aiment pas ça. Mais enfin, que voulez-vous? J'étais à Vienne et j'ai assisté comme ça à la messe, une vraie messe, où l'orchestre et le chœur chantaient comme ça, une messe. Et j'avais amené là des protestants très sévères de Suisse, des calvinistes. Et je leur avais dit, vous allez peut-être avoir ça en horreur, mais venez voir ce que c'est. Et nous, ça a été notre façon, n'est-ce pas, pour les catholiques, d'exprimer notre joie d'être avec Dieu, la façon de prier Dieu avec la musique, la beauté, dans un décor baroque incroyable, où les statues virevoltent et tout. Alors, c'est tout à fait contraire à votre recherche du caractère évangélique dans vos églises dépouillées, les cultes très sobres. Et venez voir. Alors, ils sont venus, puis à ma grande surprise, en sortant, ils m'ont dit, mais nous avons énormément aimé ça, ça ne nous a pas scandalisé du tout, c'était très beau, c'est superbe, on n'aurait jamais osé y aller nous-mêmes, mais merci de nous avoir amenés, voyez-vous. Alors, on peut dire que ce musicien religieux qu'est Mozart, en partie, n'est-ce pas, va s'éclipser donc jusqu'au Requiem, l'année de sa mort, après de nombreux essais qu'il a fait du tout, surtout dans sa jeunesse. Et donc, quelques-uns, à mon avis, sont des chefs-d'œuvre. Hein? Il donne à 23 ans, d'ailleurs, son plein d'allégresse catholique, là, chrétienne, avec la messe en ut, dite du couronnement. Puis, à 27 ans, il y a son plein d'émotions sacrées avec la grande messe en ut mineure. Annuler la musique religieuse de Mozart, c'est priver le monde, me semble, d'une des merveilles les plus éclatantes et aussi les plus pures de l'expression catholique. La plus adéquate à une prière vraie, parce que j'aime beaucoup le chant grégorien, et c'est tout autre chose. C'est très difficile de comparer. On ne compare pas des pommes et des oranges, c'est très difficile. Je serais bien embarrassé de préciser la ligne de partage qui sépare dans l'art le sacré du profane, spécialement dans la musique. Une musique spécifiquement religieuse, évidemment, devrait s'incorporer au culte au point de ne jamais s'en distinguer par des coups de timbales et des choses comme ça. Il faut cependant le travail des siècles. La liturgie de la messe elle-même, elle nous est faite, au fond, jusqu'à tout récemment, puis même encore avec la nouvelle liturgie, comme pour supporter le grégorien ou des airs similaires. Le grégorien, c'était une nouveauté dans son temps, il y a 1500 ans, et puis plus tard, la musique de Palestrina aussi, qui était peut-être aussi choquante à l'origine. Et je crois que cette musique de Mozart, musique d'orchestre comme ça, ce n'est pas choquant pendant une vraie messe, à condition que le célébrant et que le président de l'Assemblée, comme on dit aujourd'hui, puis que l'assistance soit pieuse et croyante, évidemment. Il faut pas aller là comme à un concert, faut prier. Hein. Moi, je l'accepte, je l'admire, comme la voix presque officielle de l'Église. D'accord, la voix officielle de l'Église, en principe, c'est le grégorien, puis on cherche actuellement une autre musique. Mais j'ai pas de peine à croire que le Saint-Esprit a su inspirer Mozart comme il a su inspirer ceux qui ont composé les grands chants grégoriens. Un fait certain, c'est que le grégorien réussit à créer, évidemment, un état commun de prière. Ça ne nous distrait pas à son profit... du principal, qui est la louange intérieure. Hein. Le musicien croyant, quand il prend contact avec le grégorien, il parvient à le pénétrer qu'au prix d'une espèce de concession, je dirais, qui est une espèce d'adhésion inavouée à la vérité chrétienne, qu'il recouvre et qu'il exprime pleinement. C'est difficile d'approcher du grégorien sans croire au moins un peu. Hein. Il faut y croire un petit peu. Et c'est ce... Mais... Ne pas y croire vraiment un peu, là, c'est vider le grégorien de sa substance, ça devient rien que des notes. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose d'intérieur. On ne peut guère l'entendre sans prier, le grégorien, car il porte en lui la prière, il le répète et c'est un fait. Mais la musique de Mozart aussi, je crois. Et c'est un grand fait, c'est une grande musique. C'est l'intention suffit, me semble. Avec la connaissance, Mozart, est-ce que c'est de la musique chrétienne à l'église? Qu'est-ce qu'il nous dit de Dieu? C'est toute une question, hein? Quand on a l'occasion de les entendre, les messes brèves là, qu'il a composées à 12 ans, l'une gaie puis l'autre attristée, en sol majeur puis en ré mineur, presque sans développement, là, le chant suit pas à pas les mots, on dirait que ce petit garçon a peur de trahir, de vulgariser ce dont il veut parler par sa musique, hein, et puis il a peur de paganiser peut-être les mots sacrés. Et c'est plus sensible que partout, peut-être dans le credo, hein. Cette partie de la messe, là, qui résume en si peu de phrases, tout notre salut, tout le drame de notre vie, tout le drame de la vie de l'Église, de la vie du monde, de la création à la résurrection à travers les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Le credo, le « Je crois en Dieu », qui était l'élément de base de l'enseignement, vous vous souvenez de saint François-Xavier, il y a 2 jours, avant-hier. Alors avec ses petits doigts, cet enfant, Mozart, ose à peine toucher, il se laisse dicter le son par les paroles, on dirait, mais pour affirmer son adhésion puis sa compassion intime, là, au moment pathétique de l'incarnatus est, il s'est incarné. Et du crucifixus, là, il a été crucifié. On le voit, par exemple, dans la première messe, là, il est tout jeune, 12 ans, il double chaque note à l'accompagnement en croche. Dans la seconde messe, il fait courir sous la mélodie principale un petit dessin continu puis obstiné des violons. C'est assez extraordinaire. Il y a une douceur, il y a une naïveté dans tout ça. Hein. Il y a une concision aussi, qui est faite de respect puis de crainte d'un jeune catholique de 12 ans et de crainte de Dieu. Une crainte, non pas parce qu'il a peur, mais une crainte d'être indigne de Dieu, je dirais, de la part de Mozart, du petit Mozart. Juste assez de notes pour que l'âme passe, hein? Je lisais quelque part, écrit Henri Guéon, que si Mozart avait gardé la foi, du moins à la fin de sa vie, il n'eût pas, comme on le rapporte en une certaine occasion, improvisé sur l'orgue je ne sais quelle cocasserie. Et Guéon ajoute très pertinemment, c'est ignorer la psychologie catholique, dont le trait principal est la familiarité avec Dieu. Nulle part elle ne se manifeste avec plus de désinvolture que chez celui qui exerce son art ou son métier dans le saint lieu, c'est-à-dire le sacristain et l'organiste. Dieu est là, il le sait, il le salue en entrant, en sortant, et entre deux, ben il vaque librement ses affaires. Quand le sacristain balaie et quand l'organiste joue, quoi qu'il balaie et quoi qu'il joue, il sait qu'il le sert. Sa foi se briserait s'il la gardait tendue à chaque instant son labeur quotidien. Et Henri Guéon termine en disant, il laisse agir l'automatisme et aussi bien la fantaisie. Il sait que Dieu ne s'en offusque pas. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'énerver quand dans nos églises, les gens sont un peu trop comme s'ils étaient chez eux. C'est peut-être le tempérament catholique qui fait que on est un peu familier, quoi. Peut-être que Henri Guéon a raison. Je reviens à ces 2 grands chefs-d'œuvre de Mozart, la messe du couronnement, puis la messe inachevée. L'une et l'autre sont de grandes machines capables de remplir une basilique et où toutes les ressources de la musique sont mises en œuvre pour magnifier Dieu. Il y a les solistes, les chœurs, l'orgue et l'orchestre, et seule la justesse de leur emploi va réussir à justifier le genre, on pourrait dire, hein. Il existe un cadre plus pompeux que sévère peut-être, plutôt orné que dépouillé. Il y a de grandes lignes, mais qui ça sait fleurir. Il y a des fleurs dans tout ça extraordinaire, des bouquets merveilleux. On trouve ça dans les églises italiennes, n'est-ce pas, Saint-Pierre de Rome, ou à l'église du Jésus à Rome aussi, plus exactement encore au Duomo, le Dôme, à Saint-Pierre à la Collégiale, à Salzbourg aussi à Mariaplein. Et la dernière lettre de Mozart à sa femme, Constance, est datée d'à peine quelques mois avant sa mort. Elle est morte le 5 décembre 1791 et la lettre est datée du 14 octobre, hein, moins de 2 mois. Fait appel à elle et Constance, bien, elle retrouve Mozart abattu, pâle, le regard terne, Il est indifférent à tout ce qui n'était pas son travail. Il est même indifférent à toutes sortes de sollicitations, très flatteuses, même très avantageuses, qui lui viennent de plusieurs pays étrangers. Il en arrive de Hongrie. Il y a là une société d'amateurs qui lui offre une pension annuelle de 1 000 florins contre un certain nombre d'œuvres nouvelles. Il y en a qui viennent de Hollande, même de Londres, mais il ne répond pas. Pour lui, il s'agit d'achever son ouvrage, cet ouvrage. Le seul qui compte est de ne pas le laisser imparfait. Tant qu'il n'aura pas répondu à la commande de l'au-delà. Une commande qui lui vient de l'au-delà, oui. C'est ce qu'il croit. Il n'en comprendra pas d'autre, et c'est son fameux requiem. Un historien Nissen qui raconte, il travaillait tant, et avec une telle rapidité, qu'il semblait qu'il eût voulu mettre un terme aux angoisses du monde matériel, en se réfugiant dans les créations de son esprit. Il se surmenait à tel point qu'il n'oubliait pas seulement le monde qui l'entourait, mais même sa fatigue. Tout à coup, il tombait sans force, et il fallait le porter sur son lit. Alors sa femme Constance s'affole. Elle fait venir son médecin. Prudent dans son diagnostic, il est alarmant quand même dans son pronostic. Est-ce que c'est une fièvre militaire qu'il a? Est-ce qu'il a une méningite? Une phtisie peut-être? Ou c'est peut-être l'usure simplement d'un excès de travail? Alors Constance s'en prend à ce fameux requiem, puis elle s'efforce de faire que Mozart ne s'en occupe plus, alors elle promène son mari en voiture, elle invite ses amis à le visiter. Mais lui, il est un peu comme ailleurs. Il échange quelques mots avec eux, puis il se remet à écrire, et alors, elle s'empare de la partition, puis elle l'enferme, puis elle cache la clé. Peut-être même qu'elle a provoqué la commande de cette cantate maçonnique, là, l'éloge de l'amitié dont je vous ai parlé tout à l'heure, que Shell 623. Elle est souriante et presque enjouée, elle croit avoir réussi. Il semble d'ailleurs que Mozart l'a composée d'assez bon cœur. Il va même jusqu'à la diriger en personne. Mais ça, c'est une bien courte trêve dans le drame. Peu de jours après, il est assis auprès de sa femme, au prater sous les acacias qui perdent leurs dernières feuilles. C'est l'automne, et puis il se met à lui parler de la mort. Et à lui dire que c'est pour lui-même qu'il compose le requiem. Alors, les larmes lui viennent aux yeux, et comme sa femme cherche à le tirer de ses pensées plutôt sombres, il lui dit « Non, non, je le sens trop bien, je n'en ai plus pour longtemps. » Il faut dire que le vœu d'un mourant, hein, c'est sacré, hein. Alors elle lui permet de se remettre à son ouvrage. Il est un peu égaré, Mozart, il est soupçonné aussi, il y a une idée fixe qui s'empare de son esprit. Il croit qu'un ennemi peut-être lui avait versé du poison. Est-ce qu'il a prononcé le nom de Salieri, comme dans le film? Du moins, il le laisse entendre. C'est une accusation sans fondement. Quand on y réfléchit, c'est tout à fait absurde. Parce que le temps des cabales est passé, Mozart, persécuté presque toute sa vie, a droit, dans sa déchéance physique qui le prépare au fond, qui le mène à la mort, à un peu de délire de persécution. Que de gens souffrent de délire de persécution, c'est dramatique. Bien demander à l'Esprit Saint de nous libérer de cet instinct, de penser que les gens nous en veulent. Les pieds, les mains de Mozart enflent. Il ne peut plus travailler tout seul. Süssmayer, qui va finir son requiem, l'assiste. Il note ce qu'il dicte sur la portée, sur le manuscrit. On jouait toujours la flûte enchantée, comme je vous ai dit tout à l'heure, et bien qu'elle avait déjà rapporté 8 000 florins au théâtre, cet ingrat de Schikaneder n'avait pas encore versé à Mozart la totalité de son dû. L'avenir n'est rien moins qu'assuré, hein. Et Constance, n'a plus que 60 florins en caisse et la pensée de laisser sa femme et ses deux enfants sans ressources occupe beaucoup l'esprit de Mozart qui se meurt. Non, il avait appris à vivre au jour le jour et d'ailleurs, qu'est-ce qui lui peut? Il aime passionnément quand même sa Constance. Si désolé qu'il soit de devoir la quitter, il sait qu'il la reverra, il ne doute jamais de l'immortalité de l'âme, il va revoir aussi le petit Karl, il va revoir son dernier-né Wolfgang, qui a tant de dispositions pour la musique. Et il va revoir Marianne, sa sœur, Aloysia, ses premières amours, la sœur de sa femme, Sophie, qui le soignait si bien, et Puchberg, qui l'avait tant aidé, etc. Il reverrait tout son monde, bien sûr, et tout d'abord Anne-Marie, sa mère et son excellent père Léopold, et la mort était bien l'amie qu'il pensait. Oui, la mort est une amie. Elle est, au fond, sereine, la mort, si on veut. Il en parlait comme ça à son père. Il était résigné, lui, à lui livrer son corps et son âme. Tout, excepté son art. Ça, il voulait pas livrer ça. L'art ne doit pas suivre jusqu'au tombeau. C'était son unique pensée, son unique souffrance. C'était toute sa révolte. Peu importe ce que le ciel lui accorderait en échange. Il est musicien jusqu'au fond du cœur, et il va quitter la musique, lui, Mozart. On l'exile du royaume des sons, dont il est le roi, de naissance. Sans qu'il n'a pas encore eu le temps d'en compter toutes les merveilles, il est tout jeune. Il n'a pas eu le temps d'en capter puis d'en révéler tous les trésors. Pour lui, le chant du monde, il fallait qu'il continue avec lui et non pas sans lui. Le peu qu'il en avait saisi de ce chant du monde, pour sa joie puis la joie des hommes, mais il tente en vain de le retenir. Et puis un canari qu'il aime beaucoup et qui chante dans sa cage. Un beau petit chanteur, ce canari. Alors Mozart demande qu'on l'écarte, puis finalement qu'on le rapproche de lui. Il regrette de l'avoir écarté. Mais il finira pas cette messe des morts qu'il s'était promis de laisser parfaite. Messe de Requiem. Pas même elle. Est-il trop tard? Il pourrait pas indiquer tout au moins comment il la rêve, la pense et l'entend. Car elle existe déjà dans sa tête, hein? Dieu puis les hommes vont-ils lui faire la grâce de lui laisser les moyens de la mettre au jour? Alors il va peiner puis il accepte l'épreuve. Jusqu'à son dernier souffle, il s'accroche à son art. Là, le Dies Irae dans cette messe et l'Agnus Dei emmêlé le secoue, le berce et l'exalte. On croit qu'il repose, il compose, on croit qu'il gémit, mais il construit. En crise, il chantonne, il bat la mesure, puis entre les crises, il dicte, il écrit. Il est 2 heures de l'après-midi, puis il va mourir le lendemain. Il y a autour de lui son beau-frère, Franz Hofer, son Zarastro, Franz Gerl, son Tamino Benedikt Schack, qui sont venus prendre de ses nouvelles, puis il se dresse, il commande. Il ouvre sur son lit la partition du Requiem, là où il a noté de sa main le début du Lacrimosa. Il tient à l'entendre chanter avant de poursuivre le Lacrimosa. Le départ du thème est trop beau pour qu'il ne le sème pas, pour qu'il ne le conduise pas jusqu'au but. Alors, il prend lui-même la partie d'alto, sa faible voix se joint aux autres. Lacrimosa, dit Sylla. Quoi résurgit ex favilla. Mais déjà il s'étue, puis il pleure. Puis dans le moment de son suprême renoncement, il lui est bien permis de pleurer, la musique. Le soir, sa plus jeune belle-sœur, Sophie, poussée par un pressentiment, se présente à la maison. Mozart sort de son rêve pour la saluer. Il soupire, puis lui dit « C'est bien d'être venu, chère Sophie. » « Faut que tu restes cette nuit, il faut que tu me voies mourir. » Et il ajoute, « J'ai déjà le goût de la mort sur la langue. Qui va assister ma chère Constance si tu n'es pas là ?» Constance, épouvantée, prie sa sœur de ramener un prêtre. Et elle s'adresse au prêtre de Saint-Pierre. Elle a bien de la peine à en décider un, qui est venu trop tard. C'est soit volonté, soit incapacité, soit hostilité, soit détachement. Il semble pas que Mozart ait vraiment réclamé l'assistance du prêtre. Comme tant d'esprits vraiment religieux gagnés par une espèce d'utopie du siècle, il était sans défense sur le plan intellectuel. Il avait décidé, ou peut-être qu'il avait pris l'habitude, sans doute, de ne plus demander au catholicisme que ce qu'il jugeait convenable et digne d'un homme de progrès. On en voit beaucoup comme ça aujourd'hui. C'est une grave erreur. Grave erreur. La pensée perdue dans son requiem, il se figure voir en face la miséricorde de Dieu. Il n'a jamais mis en doute la miséricorde de Dieu. J'aimerais bien croire qu'il n'abusait pas de la miséricorde. Il y a eu trop d'opinions contradictoires qui se sont heurtées autour de son requiem. Pour en ajouter d'autres, quelques-uns déclarent ce requiem indigne de Mozart. D'autres reconnaissent partout sa griffe. Il est certain que Süssmayr l'a contemplé, en partie orchestré, en partie même composé sur des indications plus ou moins précises du maître. Mais le premier morceau où le Kyrie s'enchaîne à l'introïte est incontestablement de l'auteur de l'Ave Verum. De toute façon, lorsque Sophie rentre sans prêtre, elle trouve Süssmayr auprès de Mozart, qui lui explique d'une voix mourante de quelle façon il convient d'achever le Lacrymosa. Il a encore la force de recommander à sa femme de tenir sa mort secrète tant qu'elle n'aura pas avisé leur ami Albrechtsberg. Il grelotte, il a la tête brûlante. Alors on court chercher le docteur, il leur donne des compresses froides sur le front. Elle secoue tellement ce pauvre malade qu'est Mozart, nous dit Sophie, qu'il n'ait repris plus connaissance jusqu'à ce qu'il ait trépassé. Son dernier souffle, ajoute-t-elle, fut comme s'il voulait avec la bouche imiter les timbales de son requiem. Elle dit « Je l'entends encore ». Et il s'est éteint moins d'une heure après minuit, par une tempête effroyable, le vendredi 5 décembre 1791. Quand il est mort, ce vendredi 5 décembre 1791, à 1 heure de la nuit, sa femme Constance avait mûri, elle était moins légère. Elle a failli justement devenir folle de douleur, elle s'est étendue sur le lit auprès de Wolfgang, dans l'espoir de prendre son mal, de le ressusciter. Et la servante, Élise, en sanglots, s'est rendue au serpent d'argent pour chercher le bon Joseph Deiner, afin qu'il habille son maître. Mozart est mis dans le cercueil, puis il est revêtu de ce qu'on appelle le poil noir de la confrérie de la mort. C'était comme ça autrefois, c'était pas en blanc, mais bien en noir. Puis il a été porté dans son cabinet et placé à côté de son pianoforte. Est-ce qu'il est sûr que beaucoup d'amis sont défilés durant la journée? C'est moins sûr. Hein? Ils ont été peu nombreux, entre les cas, au service le lendemain. Hein? Le service, c'est épouvantable, a été expédié à 3 heures de l'après-midi dans la chapelle de la Croix, la cathédrale Saint-Étienne, où Mozart tenait le poste de maître de chapelle suppléant, quand même. Ça a été fait rapidement, puis sans musique. Imaginez que le riche baron von Swieten avait conseillé un convoi de troisième classe, c'est-à-dire une étiquette de plus simple, pour éviter à la veuve des frais, plutôt que de les payer lui-même. Il aurait pu faire première classe, le malheureux. En tout cas, il a assisté à la cérémonie, lui. Cérémonie qui a été bâclée. Il était là avec Süssmayr, Salieri, Roser, Joseph Deiner. Puis les deux beaux-frères, Hofer et Lang. Mais quelques autres aussi, peut-être. On prétend que Schikaneder n'y était pas. La tempête de neige mêlée de pluie redoublait depuis le matin. Un petit cortège qui essayait peut-être de conduire jusqu'au cimetière qui se trouvait à un quart d'heure de la ville. On essayait de reconduire la dépouille mortelle de ce cher Mozart, mais la tempête était très forte à un moment donné. Elle était plus forte que l'amitié. Et finalement, bien, devant la fosse, les croque-morts se sont retrouvés seuls avec Mozart, avec le cercueil. C'était dans le coin réservé aux pauvres. Il arrivait souvent, la famille n'y veillant pas, qu'on ne s'occupe pas tellement de planter une croix portant le nom du défunt. D'ailleurs, un pauvre, est-ce qu'il a un nom, un pauvre? Pauvre, pauvre. Alors Wolfgang Amadeo, Chrysostome, Mozart, descend sans nom au tombeau et jamais plus. On ne le distinguera des autres pauvres. Pour un enfant qui est né dans la gloire, pour un homme qui a travaillé sans relâche à la mériter, pour un homme qui l'a mérité plus qu'aucun autre peut-être, c'est une grande ironie, hein? Il est mort dans la perfection de l'humilité, si on peut dire. Oui, Mozart, inconnu, inconnu. Est-ce qu'on le connaît? C'est en lui-même, hein, au plus profond de sa vie, très sensible, que Mozart a puisé son inspiration. C'est ça qui confère à ses œuvres cette étrange sérénité, un lyrisme qui va même jusqu'à une très haute spiritualité. Même contraint de composer sur commande, il était incapable d'écrire une musique banale. Et d'instinct, son génie le portait à créer des œuvres exceptionneles, tant dans leur forme que dans leur contenu. Depuis l'âge de 10 ans, en 25 années, d'une fécondité inouïe et d'une inspiration, on pourrait dire presque toujours égale, il a composé 700 ouvrages, je les cite, 23 concertos pour piano, 45 sonates pour piano et violon, 31 quatuors à cordes, 9 quintettes, 49 symphonies, toutes écrites entre 1764 et 1788, un nombre incroyable de pièces de genres divers, des opéras bouffes notamment. Puis derrière tout ça, cette façade souriante et légère, se dévoile un cœur sensible qui maîtrise ses émotions. Surtout dans les grandes compositions des dernières années. C'est un être exceptionnel que ce Mozart, délicat, vulnérable. Il est écrasé dès l'enfance par l'étude, les tournées, les concerts. Il a toujours été harcelé par les besoins matériels. Il nous a laissé une musique lumineuse, gaie, chargée d'espoir et à peine mélancolique. Combien s'avère mérité l'hommage que le monde entier rend à Mozart chaque année à Salzbourg. Si, comme l'écrit quelqu'un, le pays, c'est l'homme, mais son affirmation trouve une confirmation éclatante en ce qui concerne Salzbourg et Mozart. Chez lui, rien n'a jamais pu effacer la nostalgie du ciel natal. Il s'est toujours souvenu de Salzbourg. Salzbourg, sa ville natale.